Afrique, les infos, à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Conakry, 13h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. Au Tchad, plus de 300 personnes ont été condamnées à des peines allant de 10 à 20 ans de prison pour terrorisme. Parmi ces prévenus, plus de 240 rebelles de l'UFR, l'Union des Forces de Résistance, et 97 membres du groupe djihadiste Boko Haram. Les détails avec Abdourahman Dia.
Le procès devant la Cour criminelle spéciale, ouvert il y a une semaine, a reconnu coupable de terrorisme et complicité de terrorisme 243 membres de l'UFR, a indiqué le ministre tchadien de la Justice, Djimet Arabi. 24 mineurs ont été relaxés. La justice a aussi condamné à la perpétuité par contumace une dizaine de responsables se trouvant en dehors du Tchad, dont leur chef et neveu du président Déby, Timan Erdimi. Ils ont été reconnus coupables de terrorisme et d'enrôlement d'enfants. Début février, le groupe armé était entré sur le territoire à partir de la Libye. À la demande de N'Djamena, la France avait procédé à trois reprises à des frappes d'avions Mirage 2000 contre la colonne qui voulait renverser le président tchadien. Toujours selon le ministre tchadien de la Justice, dans le cadre de ce même procès, 97 membres du groupe Boko Haram ont écopé des mêmes peines allant de 10 à 20 ans de prison.
En République démocratique du Congo, l'ex-ministre de la Santé, Oli Ilunga, est reparti en liberté après avoir été entendu mardi par la justice congolaise dans une enquête sur l'utilisation de fonds publics dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola, qui a tué près de 2000 personnes en un an dans l'est du pays. Nommé en décembre 2016, le docteur Ilunga a démissionné de son poste le 22 juillet. Il s'estimait désavoué par le président de la République, Félix Tshisekedi, qui lui avait retiré la conduite de la riposte anti-Ebola. À noter que trois ex-proches collaborateurs de l'ancien ministre, dont un médecin, ont été placés en garde à vue dans le cadre de l'enquête en cours. Relation Burundi-Tanzanie, le gouvernement tanzanien veut procéder à partir du 1er octobre au rapatriement de tous les réfugiés burundais présents sur son territoire. La Tanzanie estime que la situation au Burundi voisin permet désormais leur retour au pays natal. Le point avec Michel Joseph.
En accord avec le gouvernement burundais et en collaboration avec le Haut Commissariat pour les réfugiés, nous allons entamer le rapatriement de tous les réfugiés burundais le 1er octobre, a déclaré Kangi Lugola, ministre tanzanien de l'Intérieur. Selon lui, 2000 réfugiés seront rapatriés chaque semaine jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de réfugiés burundais sur le sol tanzanien qui abrite quelque 200 000 réfugiés dans la région de Kigoma au nord-ouest. Le ministre Kangi Lugola et son homologue burundais Pascal Baranda Guillé se sont déplacés dimanche dans l'un des camps de réfugiés pour annoncer cette décision. De son côté, le HCR a estimé que la situation au Burundi n'est pas à l'heure actuelle de nature à encourager des retours, rappelant que des centaines de Burundais fuient toujours leur pays.
Afrique de l'Ouest maintenant, en Guinée, la justice a levé hier le contrôle judiciaire de deux journalistes. C'est au lendemain d'une manifestation de leurs confrères pour dénoncer ce qu'ils ont appelé le harcèlement des médias privés. Le point avec Lionel Gaïma.
Souleymane Diallo, administrateur du groupe de presse Le Lynx, et Boubacar Diallo, directeur de la radio du même groupe, avaient été inculpés de diffamation et placés sous contrôle judiciaire. Il devait se présenter tous les jours devant un juge de Conakry. La justice a levé le contrôle judiciaire qui pesait sur mes clients, a annoncé leur avocat Salifou Béavogui en précisant que la procédure judiciaire se poursuivait. Je salue cette mesure qui permet à nos collègues de vaquer librement en leurs occupations, a réagi Sanou Karfala Sissé, président de l'Union des radios et des télévisions libres de Guinée. Néanmoins, les radios privées vont quand même diffuser le 2 septembre une émission commune pour dénoncer le harcèlement des pouvoirs publics contre la presse privée. Des dizaines de journalistes ont manifesté lundi devant le siège de la Haute Autorité de la Communication à Conakry pour protester contre la mise sous contrôle judiciaire de nos deux confrères et dénoncer les entraves à la liberté de la presse en Guinée.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Protection de l'écologie en Afrique, Greenpeace, l'ONG internationale de défense de l'environnement, réclame des mesures contre les incendies qui menacent les forêts du bassin du Congo, l'autre poumon vert de notre planète. Un appel lancé mardi suite aux incendies qui ravagent l'Amazonie au Brésil. Les précisions avec Ekiabadou.
À long terme, les gouvernements doivent mettre fin à toute activité industrielle à l'intérieur de la deuxième forêt humide tropicale au monde, écrit Greenpeace dans un communiqué depuis Kinshasa. Selon l'Association pour la protection de l'environnement, depuis le 21 août, plus de 6900 feux en Angola et 3395 feux en République démocratique du Congo ont été documentés, précisant que ces feux touchent surtout la savane et non la forêt. Luanda a vite réagi, se disant agacé des comparaisons hâtives avec le Brésil. En juillet, Greenpeace avait aussi demandé l'annulation de tous les blocs pétroliers dans la forêt humide de la République du Congo. Le président Denis Sassou Nguesso avait répondu que le gisement découvert dans la région de la Cuvette est situé à la périphérie des zones abritant les tourbières. Après cette déclaration, Greenpeace Afrique s'est inscrit en faux, disant que ses cartes montrent que 64% de la surface du bloc pétrolier Ngoki concerne des tourbières.
Économie africaine, les leaders du G7, les sept grandes puissances démocratiques et industrialisées ont décidé, à leur récent sommet à Biarritz en France, de contribuer à hauteur de 251 millions de dollars à la promotion de l'entrepreneuriat féminin en Afrique par le biais de la Banque africaine de développement. Une somme qui sera distribuée dans le cadre de l'initiative AFAROA, l'action positive pour le financement en faveur des femmes en Afrique. De nombreuses organisations se battent pour soutenir l'autonomisation des femmes, notamment l'IDE africaine, fondée par 10 femmes de Toastmasters International. Aminata Keita en est la vice-présidente et elle a abordé au micro de Nathalie Barge plusieurs questions liées au leadership féminin.
L'objectif est que le petit nombre se mette au service du grand nombre, comme même dit la présidente de l'IDE africaine. Simplement, nous faisons des projets, nous aidons les femmes à se développer, à s'alphabétiser et à mettre en place de petits projets d'autonomisation financière, afin qu'elles soient indépendantes. Des organisations comme l'IDE africaine, justement, aident les femmes à développer leur estime de soi-même, leur confiance en soi, parce que la confiance en soi est à la base de tout. Dans ce que nous faisons, nous les accompagnons. Même les femmes candidates en politique, hein.
Les candidatures féminines, alors, qu'est-ce que vous faites pour les accompagner? Les femmes qui sont du reste très rares à être présidentes de partis politiques.
C'est vrai. Et c'est vrai que c'est une question de plus en plus abordée, cette question de participation des femmes en politique. Ce que nous avons constaté, c'est qu'en général, les femmes sont toujours au bas des listes électorales. Avant les élections, elles sont volontaires, on les positionne, mais dès que les élections approchent, vous voyez que les femmes sont au bas et c'est les hommes qui sont en avant. Dans ce que nous avons fait un projet une fois d'interpellation, c'est-à-dire interpeller la société en général sur la participation des femmes en politique. Et nous avons fait des pétitions, informer la population sur la nécessité d'accompagner les candidatures féminines. Mais à côté, ce que nous faisions, c'est que nous formions les femmes, nous accompagnions. Nous avons fait des cours de coaching, des cours de prise de parole en public pour les aider à présenter leur vision. Cela a fait effet, on peut dire. Et ça a encouragé plus de femmes à se présenter.
Sur la question de la prévention des conflits, d'une certaine manière, parce que plus de femmes dans les forces de l'ONU, dans les forces de police, dans l'armée, etc., c'est quelque chose qui fonctionne bien et qu'on ne fait peut-être pas assez, non?
C'est vrai, et je crois qu'il faut de plus en plus avec les femmes dans le cadre de la prévention des conflits et même de la résolution des conflits, parce que les femmes, justement, ont ce leadership qui est recherché aujourd'hui, même par les hommes. On parle de féminisation du leadership. Le côté humain et maternel de la femme est mis en avant. Les gens font confiance aux femmes. L'IDE africaine, dans ses projets, justement, d'aide aux femmes, a mis en œuvre un grand projet de choix de femmes et de jeunes filles dans certains quartiers. Le projet a été réalisé en Côte d'Ivoire, dans les communes d'Abobo et de Yopougon, où les femmes sont impliquées maintenant dans la prévention des conflits. Ça marche très bien, les institutions locales et puis les responsables communautaires ont été impliqués dans le projet et ils sont entièrement d'accord, y compris les maires, hein, que les femmes fassent partie prenante des projets. Donc quelques femmes, seulement des femmes et des jeunes filles ont été ciblées pour repérer des foyers de conflit, de les reporter afin qu'il puisse y avoir des actions qui soient prises à temps pour éviter les crises qu'il y a eu précédemment.
Aminata Keita, vice-présidente de l'IDE africaine et directrice du CAP, le centre d'accompagnement personnel et professionnel. Et pour terminer, au Maroc, le procès en appel de 24 hommes poursuivis après la décapitation de 2 jeunes touristes scandinaves, une danoise et une norvégienne, au nom du groupe État islamique, s'ouvre aujourd'hui au Maroc, 6 semaines après la condamnation à mort des 3 accusés ayant avoué avoir participé au crime. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.